Les rencontres sciences humaines en Ariège, on peut pas toujours y aller. Et puis même quand on y va, des fois, on n'a pas le temps de tout comprendre. Heureusement, Radio qui pique est là pour tout enregistrer et vous permettre d'y revenir. Sociologie, anthropologie, histoire, géographie, psychologie, philosophie, politologie, archéologie, économie, sciences du langage et de la communication, écologie. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs, cheuses, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio qui pique. 7 juin 2024, le Léo à Foix. Rencontre avec Julien Duy autour de son livre « L'aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà » aux éditions de La Découverte. Une rencontre organisée par la librairie Le Cachalot.
Allez, c'est parti. Alors, moi c'est Léa, donc Le Cachalot m'a proposé de venir animer cette rencontre ce soir. Je vais me présenter rapidement aussi. Voilà, c'est pas moi qu'on vient écouter vraiment, je sais. Moi je suis médiatrice scientifique et culturelle et je suis passionnée pour l'histoire. Et j'ai travaillé quelques fois comme guide dans, dans cette thématique. Mais je ne suis pas formée spécialement là-dessus. Je vais faire une petite intro avant de te laisser la parole. Alors, Julien Duy, moi, si j'ai bon, tu es docteur en histoire.
Oui.
Et tu travailles dans un laboratoire d'anthropologie sociale.
Je suis affilié à un laboratoire dans la vie de tous les jours. Je suis enseignant de lettres modernes, vous savez, dans un collège de Rennes, une petite cité. Donc, le jour, j'enseigne aux élèves, je suis ravi. C'est moi, on a les mains dans le cambouis, on est, et puis c'est sympa, grand chose de savoir des choses si on ne le diffuse pas. Et le soir, bah, je change de casquette après avoir corrigé des copies. Et puis j'ai la chance en mythologie d'avoir eu quelques idées. Du coup, ça a pris une ampleur qui me dépasse complètement. Et j'ai vraiment une boucle de vie.
J'ai tout compris. Alors moi, j'ai noté que tu es auteur, par exemple, de 2 livres. Comme ça, c'est ce que tu as écrit.
Oui.
Alors le premier c'est Cosmogonie.
Parfois en changeant des couches d'ailleurs.
Ah ouais, ouais. Le premier c'est, j'en ai pas d'exemplaire ici, Cosmogonie, la préhistoire des mythes, qui a été publié en 2020. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui que j'ai dans les mains, L'aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà. Pour faire un rapide résumé, si je comprends bien, c'est que grâce à la méthode que tu emploies, moi je vais parler de philomythologie, donc une méthode que tu nous expliciteras pour partie après, tu tentes de retracer les premiers récits mythologiques de notre humanité et leur voie migratoire. Et alors, moi la première fois que j'ai rencontré ton travail, c'était par une publication qui s'appelait « Un ours dans les étoiles ». Et de mémoire, mon souvenir, c'est que en fait, tu faisais le parallèle entre plusieurs peuples dans divers endroits du monde, plutôt dans l'hémisphère nord, me semble-t-il, qui nommaient d'une même façon, d'une façon très proche, des constellations, et que leurs récits racontés, les mythologies racontées autour de cette constellation, présentaient des similitudes. Donc là, effectivement, c'est là que j'ai découvert mon hypothèse de travail, qui est donc que si des récits mythologiques se ressemblent, c'est parce qu'il y a un lien parenté. C'est un résumé, hein. Et que s'ils sont apparentés, on pourrait peut-être aller regarder quel serait l'ancêtre commun de ces récits-là. Autrement dit, il serait peut-être possible de reconstituer une mythologie qui est disparue depuis des milliers d'années, enfin, en tout cas dans une période où il n'y a pas de traces écrites, mais qu'en fait, en allant questionner l'oralité, on pourrait retrouver des traces.
C'est ça. Je n'ose pas couper la parole. Ce premier article, c'était en 2012, effectivement. C'est un des premiers articles que j'ai écrit. Alors, dans les faits, il y a associé à la Grande Ourse, c'est la constellation qu'on voit, une des constellations les plus facilement reconnaissables dans le ciel. Il y a plein de choses qui ont été associées. On y a vu un chariot, par exemple. On y a vu un ours, hein, avec le mythe de Callisto, je ne sais pas si vous le connaissez, qui raconte comment Callisto fuit la vengeance de la femme de Zeus. C'est je viens de Paris, et catastérisé, et va se transformer en constellation. ce qui explique l'origine de la constellation. Donc il y a plein d'explications possibles au niveau de ce livre. Et, étrangement, il y a des explications qui ont tendance à revenir. C'est pas que les gens n'ont pas le choix, parce qu'on peut tout imaginer, hein, on pourrait presque transformer la constellation de la Condance avec un peu d'imagination, on pourrait la transformer en constellation de dinosaures, par exemple. On peut vraiment tout imaginer. Et il s'avère, alors ça c'est un chercheur qui s'appelle Yuri Belsky, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille, qu'il y a un motif très régulièrement associé à la Condance, où la Condance est un animal qui est pourchassé, qui est poursuivi par... Alors, je commence un tout petit peu le volume, c'est mieux comme ça. J'ai l'impression d'avoir un bouton sur le côté. Hein, mais je vais essayer.
Et donc, à tout moment, on a des micros. Hein,
il y a un micro là. Ouais.
Voilà, alors ça va mettre de la distance, j'espère que vous serez pardonné. Donc, en fait, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, on retrouve un récit très fréquemment où la grande ours. C'est un animal qui a été pourchassé par un chasseur et qui s'est transformé en étoile. Alors il y a des variantes, hein, il y a des choses qui changent. Parfois, on prend seulement la constellation de la grande ours. Parfois, il y a la grande et la petite ours. Parfois, la grande ours semble l'ensemble de l'animal. Parfois, la grande de l'animal, c'est juste soit un ongulier, c'est seulement les, vous savez, les étoiles qui forment la casserole, les quatre étoiles. Et le manche est constitué de chasseurs qui poursuivent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le manche de la grande ours, il y a une toute petite étoile qu'on appelle Alcor, hein, qui est pendant longtemps, c'était le plus petit corps astronomique observable à l'œil nu. Je crois que ça l'est toujours à l'œil nu, d'ailleurs. Et on l'associait souvent à un chien. Donc, oui, il y a plein de points communs. Alors, vous allez me dire, en Asie, c'est simple, il y a une diffusion, ça s'emprunte, ça se transfère, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut retrouver tous ces petits points communs également en Amérique du Nord. Alors, comment ça va s'en un tout petit peu, j'ai l'impression. C'est bon, ça... Donc, la question, Yuri Gaskin, qui avait étudié, hein, donc Yuri Gaskin, c'est un chercheur russe avec un cœur immense, globe-trotteur, qui va de pays en pays, qui rassemble le maximum de mythologie, il a créé une fantastique base de données en russe, hein, pour des questions de gain de temps. Et pour Yuri Gaskin, qui a montré toutes ces ressemblances, hein, à la fois entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie, dont on fait avant de manière moins systématique, ben, ça s'expliquait par une diffusion qui est montrée au paléolithique. Pourquoi le paléolithique? Parce que les peuplements des... Voilà, je me rapproche, c'était mieux, voilà. Et le peuplement... Désolé, je prends mes marques. Et pourquoi le paléolithique? Parce qu'on connaît un peu l'histoire du peuplement des Amériques. On sait que le peuplement des Amériques... Alors, il y a des questions, hein, quand même, de datation, mais les premiers humains à peupler l'Amérique ont profité du fait que le niveau de l'eau était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, grâce à la cause de la glaciation. Une grande glaciation, les pôles avaient absorbé l'eau, et forcément, le niveau de la mer était plus bas. Et les humains ont profité, du moins c'est l'hypothèse dominante actuelle, de cette période-là pour arriver en Amérique. Puis après, l'eau est remontée. Il y a eu d'autres passages de l'Eurasie en Amérique, mais plus tard. Donc pour expliquer qu'un monde se retrouve à la fois en Eurasie, largement diffusé avec plein de points de détail, et en Amérique du Nord, l'explication la plus probable, c'était que ça remontait au paléolithique. Très bien. Donc ça, c'est pas moi, c'était fait par Yuri Belsky, qui l'a fait de manière absolument remarquable, mais qui a beaucoup publié en russe, ce qui n'aide pas à diffuser ses travaux. Quoi qu'il en soit, face à ça, je me suis interrogé. Parce que c'est bien beau, mais comment trouver déjà le sens de diffusion? Où est-ce qu'on peut situer l'origine du mythe? Comment exclure l'hypothèse que le mythe a été inventé en Amérique et qu'il est repassé en Eurasie par la suite? Et pour ça, donc, on avait une carte de répartition très bien faite, et pour ça, il fallait pouvoir mettre des flèches entre les différents éléments. Alors ça me titillait, c'est un moment que je publiais en mythologie, je voyais déjà les faiblesses de certaines méthodes, hein, par exemple le structuralisme, et je suis parti d'un constat qui était très simple. Quand vous connaissez, si je vous raconte par exemple une nouvelle version du mythe de la chasse cosmique, hein, imaginons celle de Callisto, et je la raconte à deux d'entre vous, vous allez la retenir. Vous allez la répéter à votre tour à deux autres personnes, qui vont eux-mêmes retenir une version, mais il y a une capacité à retenir exactement les mêmes versions. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où ça va être répété, les versions vont diverger, elles vont être de moins en moins ressemblantes. Alors, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, parce que si jamais vous racontez la mauvaise version de la chasse cosmique, il y aura quelqu'un pour vous corriger. Vous faites des mythes et vous dites beaucoup plus lentement que lorsqu'on répète seulement à deux personnes. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que plus deux versions se ressemblent, plus leur ancêtre commun est récit. Et j'ai pris une série de versions. Voilà, j'ai pris des versions, il y a une version basque par exemple, hein, puisqu'on est dans, on est dans les Pyrénées, il y avait une version basque, il y avait forcément Callisto, parce que Callisto il y a plusieurs versions, il y avait des versions sibériennes, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé le maximum de versions, et j'ai essayé de les comparer entre elles. Si mon hypothèse était correcte, normalement, je devrais voir comme un arbre de famille se dessiner, et ça permettrait de savoir grosso modo comment les versions se sont diffusées à travers. Alors, je vous avoue que quand j'ai commencé, pour être complètement honnête, j'avais parié un restaurant avec un copain que j'ai gagné. Et il m'avait dit que ce n'était pas possible. Je lui ai soutenu que oui, et il y avait un restaurant et je ne voulais pas avoir tort. Donc j'ai été complètement dépassé par la situation, mais ça c'est un autre problème. Donc quoi qu'il en soit, la première chose à faire, c'est savoir comment comparer les récits. C'est comparer des individus, on utilisait, vous savez, des arbres de famille, c'est facile, il y a des gènes, il y a des protéines, donc des éléments qu'on peut distinguer. Comment comparer les versions? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque version, je les ai découpées en phrases toutes petites, avec le moins d'éléments possible à l'intérieur. Au lieu de dire, oui, il y a un héros qui pourchasse un élan qui saute dans le ciel, il y a un chasseur, c'est un homme, c'est une femme, il y a deux chasseurs, un certain homme, c'est une femme, ça peut s'appliquer, hein, s'il y a un homme et une femme, il y a un homme et il y a une femme. Et pour chacun de ces éléments, j'ai fait une sorte de tableau Excel qui était assez imposant, assez conséquent, et c'est aggravé par la suite. Chaque fois que l'élément n'était pas là, je mettais 0. Chaque fois que l'élément était là, je mettais 1. J'avais des chaînes numérées, version 1, 1, 0, 0, 0, 1, etc. On a l'impression que je faisais du morse. Quand je ne savais pas, je mettais un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et j'ai ensuite utilisé des logiciels utilisés en biologie et qui permettent de faire des arbres phylogénétiques. Alors, bien sûr, je ne dis pas que les mythes sont des êtres vivants, hein, je compare la quantité d'informations communes entre deux versions. Vous savez, ça va vite, hein, avec 5 versions différentes, je peux faire 105 arbres différents. Avec le plus gros corpus sur lequel j'ai travaillé, il y avait plus d'arbres possibles qu'il y a de particules dans l'univers observable. Donc j'avoue que j'ai triché. Ah, mais ça monte en fait, c'est exponentiel, donc ça monte extrêmement vite, donc je vous avoue que je ne me voyais pas faire tous les arbres possibles pour envisager, etc. Donc j'ai triché. Donc quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé avec mes versions et mes chaînes binaires. Le temps de me former rapidement en statistiques, il m'a fallu 6 mois. Hein. Je suis assez curieux, j'ai tendance à faire 36 000 chantiers en même temps, même si ma route me dirige vers la mythologie, j'ai jamais allé au fond des choses. Donc, j'ai créé mon premier arbre phylogénétique. Et là, toutes ces versions qui racontaient la génétique se sont organisées d'un point de vue géographique. C'est-à-dire qu'on partait d'Europe, on passait par l'Asie centrale, on arrivait en Asie du Nord-Est, on basculait par la Colombie-Britannique, donc ça veut dire qu'on était au Nord-Ouest de l'Amérique, et on arrivait au niveau des Grands Lacs. Et quelles étaient les probabilités que ce soit possible? Et forcément, si on a un résultat, ça ne sert pas, donc j'ai testé immédiatement avec d'autres corpus, hein, parce que j'avais peur de m'ennuyer. Je n'avais pas d'enfant à l'époque. Et je n'avais pas la télé non plus, ce qui libère beaucoup de temps. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai obtenu un arbre qui était cohérent d'un point de vue géographique, qui suivait ce qu'on savait des migrations. Alors maintenant, c'est déjà un beau résultat, c'est-à-dire qu'on a la carte que Youri Bialystokine avait réalisée, moi sur des bases complètement différentes, parce que Youri Bialystokine étudiait de gros éléments, moi sur des terres, on m'a pu sur des petites différences, je tenais un arbre qui était cohérent avec ce qu'il disait, mais en plus je pouvais mettre des flèches sur la carte. Mais ce qu'il y a le plus sympa dedans, qui était... Alors je vous avoue que quand j'ai commencé, je n'avais pas pensé à ça, je voulais juste mettre des flèches sur la carte. C'est qu'en utilisant des logiciels qu'on utilise normalement pour étudier l'évolution du vivant, on peut calculer quelles sont les probabilités à chaque nœud qu'un trait existe. Par exemple, si deux versions partagent le même trait, il y a des chances que leur ancêtre commun ait le même trait. C'est logique. Si jamais vous avez trois versions et que la version la plus ancestrale, la plus ancienne qui se rattache tout en bas, ne possède pas le trait, par contre les deux versions côte à côte partagent le trait, sachant qu'une fois encore, on voit bien, c'est les arbres qui sont créés en rapprochant les versions selon leur degré de proximité, il y a moins de chances, on n'est pas sûr à 100% que le trait existait, donc on peut calculer une probabilité. Ça dépend, hein, parce qu'il n'y a pas juste trois éléments, bien sûr, il y en a d'autres en dessous. Donc on va dire qu'il y a 70% de chances. Et progressivement, on peut remonter dans le temps, jusqu'à la racine, et on peut établir en termes de statistiques. Donc c'est pas des certitudes, on n'aura jamais de certitude dessus. Mais l'avantage, c'est que c'était stable, il suffit d'augmenter le corpus, diminuer le corpus. Il y a plein de tests mathématiques sympas à faire dessus. Et on peut reconstruire la première version, celle qui était à la racine.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs Cheuse, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik.
Par exemple, je parlais de la chaise cosmique en 2012. En 2013, j'ai refait un nouveau corpus, où cette fois-ci, j'ai pris en compte pas que les chaises cosmiques. En 2012, c'était les chaises cosmiques liées à la grande once. Toutes les chaises cosmiques, tous les récits que j'ai trouvés où il y avait un animal qui sautait, qui se transformait en étoile, alors ça concernait plus que la grande, ça concernait la grande ourse, mais ça concernait Orion, ça concernait les Pléiades, beaucoup plus de constellations. Ensuite, j'ai utilisé à la base de données du RIVSTIM, ce qui étudiait avec des motifs, donc un codage complètement différent. On n'avait rien à voir, on échangeait bien sûr, mais au niveau recherche, il a créé sa base de son côté. Et puis, j'ai mon directeur de, qui est devenu après mon directeur de thèse d'ailleurs, Jean-Luc, parce que j'en ai fait une thèse, mais c'était pas prévu non plus. Jean-Luc Lequelet qui a créé sa propre base de données, donc on a testé sur plein de bases de données différentes et les résultats se rejoignent. Ça veut dire que c'est suffisamment robuste pour varier les paramètres, pour varier les méthodes et obtenir le même résultat. Après, on a aussi vérifié autre chose, parce que par exemple en Amérique, il y a des chaises cosmiques avec la grande ours et il y a des chaises cosmiques avec Orion. Vous savez, Orion, je ne sais pas si vous voyez la constellation, c'est une sorte d'amas dans le ciel. Et est-ce que les deux versions existaient ? Est-ce que la version d'Orion venait de la version de la grande ours ou l'inverse ? C'était à vérifier. Donc on a utilisé des logiciels, on a fait des régressions, on a regardé quel était le ciel vu par le détroit de Bering à l'époque. Et on s'est rendu compte que la grande ours était visible, mais qu'Orion, pendant les temps estimés, n'était pas visible. Et on a multiplié ainsi les différentes strates d'analyse de manière à obtenir quelque chose de cohérent. Alors après, il faut être honnête, c'est un peu le principe des dominos. On les pose les uns sur les autres, et il y a un moment ou un autre, il y en a un qui risque de tout faire basculer. Le pari est intéressant, mais c'est quelque chose, on est dans la science, c'est-à-dire que ce n'est pas des certitudes. Il y a une certaine probabilité. Plus la tour est haute, et plus on se dit que les résultats qu'on a obtenus en dessous, je sais pas pourquoi je dis, j'ai donné les quatre plats peut-être, de notre enfance. Plus la tour et plus les éléments sont solides. Mais le principe de la science, c'est que toute vérité est provisoire et que quelqu'un trouvera son autonomie. Une meilleure méthode par la suite et trouvera une meilleure façon de faire. Bah, du coup, ça me semblait moins.
Ça arrive à expliquer peut-être un tout petit peu mieux pour des gens qui sont moins à l'aise avec la manipulation des arbres. Qu'est-ce qui te fait dire qu'effectivement, c'est eux, ils sont plus apparentés et qu'après, t'en devines un chemin migratoire ?
Alors, le chemin migratoire, il arrive après coup. Comment est-ce qu'on rapproche ? C'est le même principe que j'utilisais l'arbre généalogique, les arbres de famille, mais on va imaginer seulement un côté de la famille, parce que sinon les humains ont deux parents, hein, donc on va seulement imaginer un côté, où, vous savez, on a le frère et la sœur qui se ressemblent beaucoup, rattachés à, par exemple, à la mère, on va prendre, et ils se ressembleront aux cousins, hein, rattachés au frère de la mère, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut reconstruire par proximité, juste par logique, en regardant la proximité entre les personnes, on peut reconstruire leur généalogie. Donc au niveau des mythes, c'est la même chose, sauf que c'est divisé en toutes petites phrases. Mmh. Et j'obtiens un arbre. Après, il suffit vraiment de suivre le chemin. C'est-à-dire que l'arbre qu'on visualise, on peut le mettre sur une carte. Parce que finalement, une carte géographique, c'est de l'histoire. C'est l'histoire en deux dimensions, c'est de l'histoire. Et les différents points qui sont attachés, on peut les rejoindre. Et on peut, comme ça, remonter sur le chemin. Alors après, il y a la question de l'origine. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, oui, il fait un arbre, mais comment savoir où est l'origine exactement ? Comment, pourquoi dire c'est apparu là plutôt que c'est apparu à tel autre endroit ? C'est bien beau d'avoir un arbre, mais si je choisis par exemple de mettre l'arbre et de le fixer sur, je ne sais pas, une verse. On parlait d'un frère et d'une sœur tout à l'heure, sur un frère plutôt que sur les grands-parents. Logiquement, par degré de proximité, j'aurais comme une forme d'arbre, mais l'arbre sera complètement faux. Et là, on a des moyens, alors il y a plusieurs moyens pour le faire, parce que du coup, c'est testé différemment. Il y a des moyens automatisés, c'est-à-dire qu'on peut calculer la distance entre les deux versions les plus lointaines, les plus différentes, et trouver le juste milieu. et ça permet d'obtenir, savoir grosso modo où était l'origine. Il y a des versions plus empiriques, par exemple, si selon l'ère de répartition de certains mythes, on peut en déduire leur origine hein, par d'autres chemins. Il y a des solutions où on prend toutes les branches et on reconstruit la proto-version dans toutes les branches, ce qui fait une histoire un peu différente à chaque fois, puis on fait la moyenne entre les traits qui apparaissent le plus fréquemment pour retrouver la région. Et en fait, une seule méthode ne suffit pas, parce que c'est toujours pareil. Dire de grandes choses, c'est bien, il faut le prouver. Donc il faut répéter, reprendre. Ça donne parfois une impression de redondance. Ça m'a été pendant un temps reproché. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais on me disait, mais oh, tu reprends toujours le même corpus, tu changes juste les choses, tu reprends... là, il y avait 30 versions, maintenant, il y en a 40, mais tu peux changer de thème. Mais non, parce que le principe, c'est pas tant de multiplier et de faire aussi des choses qui attrapent un peu l'attention publique, que de vérifier la solidité de la démarche. En fait, c'est le principe de la science. Le but, c'est pas de faire quelque chose qui fera la une des journaux, puis dès que ça retombe, s'attaquer à quelque chose d'autre. L'objectif, c'est de prendre les éléments, de les vérifier le plus fortement possible, et de varier au maximum. On ne peut pas tout savoir, il y aura forcément des biais. On peut changer les corpus, ça peut être des corpus établis par nous-mêmes, des corpus établis par d'autres, il y a forcément des biais qui existent. On ne peut pas tout éliminer. Mais la règle du jeu, c'est d'en éliminer le maximum. Voilà. Et puis, finalement, ça vaut le coup, parce que si jamais ça marche, ça veut dire qu'on a la possibilité de remonter au-delà de l'écriture. Ça veut dire qu'on a la possibilité de remonter, non pas aux premières paroles de l'humanité, mais aux premières histoires de l'humanité. Ça veut dire aussi que des histoires qu'on pense être les nôtres, hein, on est très fiers par exemple d'un récit de Pygmalion qui a irrigué l'art, on retrouve représenté du roman de la rose jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à nos jours. Hein. Pygmalion, c'est comme l'archétype de l'auteur, du créateur des histoires, c'est Pygmalion qui va créer une femme dont il va tomber amoureux, et cette femme est extrêmement réaliste, et finalement la déesse de l'amour va donner vie à cette femme. Et aujourd'hui, c'est imprégné dans notre imaginaire, cet artiste qui est capable de créer à partir de zéro le semblant de la vie. C'est un marqueur culturel chez nous. Et en faisant ces recherches, par exemple, en multipliant les corpus, j'ai pu montrer qu'en réalité, l'origine, c'est en Afrique du Nord, qu'il y avait bien d'autres versions de Pygmalion en Afrique, qu'on pouvait reconstruire l'origine et la diffusion, et que ce récit qu'on considérait comme un marqueur culturel, en réalité, nous relie aux autres. Et une fois qu'on... C'est un changement de perspective complet. Ça veut dire qu'on a une unité au niveau génétique, on partage tous un certain nombre de capacités, le langage, l'art, et ça veut dire qu'on partage aussi nos mythes. Et on se rapproche, ce qui semblait nous séparer, en réalité, nous rapproche.
Est-ce que tu as des exemples comme ça d'autres... Attends, j'avais noté une façon de... d'invariants mythologiques. Moi, ce que j'entendais par dans ce terme, c'est des choses justement qu'on continue de véhiculer, je sais pas, des un peu comme des vérités héritées, des croyances qu'on continue nous d'avoir. Enfin, là, tu parles du même, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres.
Oui, alors il y a deux choses. D'abord, les invariants au niveau mythologique, il y a une hypothèse qui était très très à la mode pendant un temps, qui est celui des archétypes. Je veux juste en profiter, sauf si tu voulais l'aborder après.
Non.
Donc, la théorie des archétypes est une théorie qui a été soutenue essentiellement par Jung, même s'il n'y a pas que Jung, c'est quelque chose qui trouve ses racines très profondément, jusqu'à Platon, voire avant, et qui veut qu'on aurait d'autres cerveaux, des mythes déjà tout faits. Pourquoi est-ce qu'on trouve certains récits partout à travers le monde? Simplement parce qu'on l'aurait dans notre cerveau. Et que ce serait... Alors, Jung va loin, parce que par exemple, il explique les dinosaures par le fait... Mais il explique les dragons par le fait qu'on aurait rencontré des dinosaures. Donc voilà, et c'est la science de son époque. C'est la science de son époque, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire, on aurait peur... Il y a d'autres variantes, hein. Par exemple, les dragons viendraient du fait qu'on a très très peur des serpents, et c'est pour ça qu'universellement, il y aurait des dragons. Le problème... La prédiction de cette théorie, c'est qu'on doit retrouver les mêmes mythes partout à travers le monde. Le problème avec cette théorie, c'est qu'on ne trouve pas les mêmes mythes partout à travers le monde. Il n'existe aucun mythe universel. Le dragon, par exemple, le motif du dragon qu'on va combattre, ou qui garde une source, c'est le serpent gigantesque qui garde une source, il se retrouve en Eurasie du Nord, il va se retrouver en Amérique du Nord. On ne le trouve pas, alors, c'est pas vrai, on le retrouve en Afrique du Nord, notamment chez les Kabyles, Mais dans la partie subsaharienne, en dessous du Sahara, on ne retrouve pas ça. On retrouve des grenouilles qui gardent des points doux, par contre. On retrouve aussi en Australie, mais on ne retrouve pas le serpent. Les endroits où il y a des serpents qui gardent des points d'eau, j'en ai trouvé. Hein. Donc forcément, on vérifie les sources et on retrouve les versions très proches des versions européennes. Et là, sur des endroits, les anciennes colonies françaises, par exemple, on retrouve des versions qui ressemblent au folklore français. Donc ça, c'est des emprunts, c'est de la circulation. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mythe, la notion d'universaux n'existe qu'à des niveaux vraiment basiques, du type. Il y a un homme qui va essayer de tuer sa mère, mais c'est tellement basique que ça peut être inventé n'importe où, on ne peut pas en dire grand-chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut se méfier du mot universel. L'esprit humain, quand même, on a tendance à véhiculer des récits, mais l'esprit humain est quand même capable d'imagination, et on a chacun notre manière de faire, on a chacun notre culture, et il faut vraiment le prendre en compte. C'est triste comme théorie Jung, ça veut dire que chacun penserait nécessairement, ça veut dire autre chose, qu'on ne serait pas capable de penser autrement. Ensuite, au niveau de la mythologie, la manière dont ça nous influe aujourd'hui. Oui, alors le principe d'un mythe, c'est qu'on ne le voit pas. Un mythe, c'est un récit, on a peut-être dû commencer par ça, c'est un récit dans lequel on croit, on ne questionne pas. Et le mythe, généralement, bah, c'est un peu, vous savez, comme... un mouchoir oublié dans sa poche, on l'emmène avec nous et on ne se rend pas compte qu'on est en train de véhiculer un mythe. Alors, des exemples, un exemple très simple. Vous avez entendu parler, par exemple, je pense que c'était par rapport à la mort, par exemple. Pendant longtemps, on a pensé, d'un point de vue scientifique, que la mort était inévitable. Alors, d'abord, il y a eu l'interprétation qui était religieuse, hein, on est mortel parce que c'est comme ça. Ensuite, il y a eu un vernis scientifique dessus en disant « Oui, mais c'est à cause de l'évolution, parce que si on commençait à se multiplier, ben, la planète n'arriverait plus à supporter les besoins, etc. » Sauf que l'évolution est aveugle. Il y a des pressions sélectives qui s'exercent, et l'évolution se dit bah, « Tiens, on va mettre la mort juste pour pouvoir réguler. » Il y a eu d'autres théories qui voulaient que de toute façon... Enfin, en gros, les théories médicales disaient d'abord, c'est là une fois pour toutes. Et c'est seulement très récemment qu'on s'est rendu compte, on a commencé à réfléchir à quoi était dû à la mort. Il y a deux grandes théories, hein, par exemple. Il y a essentiellement deux grandes théories. La théorie qui a le plus de vent en poupe, qui est liée à la théorie de l'évolution. Lorsqu'on a des enfants, par définition, on n'a pas encore eu de mutation dans notre organisme qui conduise à la mort. Parce que sinon, on ne pourrait pas avoir d'enfants. Ça veut dire que ces mutations n'apparaissent qu'après le moment où on peut avoir des enfants. Ce qui fait que ça n'a aucun effet sur le fait d'avoir des enfants, de se reproduire ou pas. Progressivement, on a transféré des mutations. Alors, pas les mutations qui nous suppriment tout de suite, hein, c'est quelque chose qui nous tue à 18 ans, ça a un impact sur notre évolution. Mais quelque chose qui va nous tuer à 80 ans n'a pas d'impact sur l'évolution. Et les mutations vont s'accumuler progressivement les unes après les autres. Ce qui fait qu'on meurt. En fait, on meurt parce qu'on ne se reproduit pas assez longtemps. On se reproduirait à partir de 50 ans jusqu'à 90 ans, par exemple, et bien on vivrait plus longtemps, parce que la pression sélective devrait s'exercer plus longtemps. Ça a l'air de rien, cette idée. C'est une idée qu'on aurait pu avoir au niveau de la théorie de l'évolution très très vite. Mais en réalité, c'est tout récent. Et pourquoi? Parce qu'il y avait cette idée que la mort était là une fois pour toutes. Et alors d'autres chercheurs l'ont fait, hein, l'ont même fait très très bien, hein, qui ont suivi la manière dont on percevait la mort. Cette idée a vraiment servi de blocage. C'est ce que un obstacle épistémologique, hein, si on prend les termes de Bachelard, si vous connaissez, c'est un très très grand philosophe des sciences, et qui fait qu'on n'arrivait pas à penser que la mort pouvait s'expliquer d'un point de vue purement physique. Et d'où vient cette idée que la mort, c'est une chose une fois pour toutes? Et bien là, la mythologie prend le relais des sciences. Alors, partout, je pense qu'on va y revenir après, donc je vais partir de manière très générale. L'humanité, lorsqu'elle est partie à quitter l'Afrique lors des premières migrations, parce qu'elle n'est pas partie d'un coup en disant du jour au lendemain, tiens, c'est sympa, là en dehors, je vais partir me balader, hein, ça s'est fait en plusieurs vagues progressivement. Toujours en me basant sur des éléments statistiques, des données qui sont des données liées à la propre probabilité. Hein. Une fois encore, je n'aurai jamais aucune certitude. Je vous dirais des probabilités plus ou moins élevées, c'est déjà absolument fantastique de pouvoir le faire. l'humanité était persuadée qu'autrefois, elle était immortelle. Et qu'il y avait eu un accident, quelque chose qui s'est passé, généralement la faute d'un humain, et que c'est à cause de ça qu'elle est devenue immortelle. Ça veut dire qu'il y a eu une cause dans le passé, et qui a eu lieu une fois pour toutes, et qui fait que la mort est arrivée.
Les rencontres sciences humaines en Ariège, les problématiques de société étudiées par les chercheurs CHEUS, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik.
Sauf que si on part avec ce raisonnement-là, ce raisonnement qui nous a suivis, hein, on peut remonter dans le temps, on peut partir des sortes d'Afrique, on le retrouve chez les philosophes, par exemple, jusqu'au 19e siècle, hein, on a cette idée que la mort est un donné une fois pour toutes. Ben, si on se dit que la mort est là une fois pour toutes, à quoi bon chercher la cause? Ça sert à rien, en fait. Et il faut réussir à se défaire de cette idée que la mort est donnée une fois pour toutes. Il faut réussir à se dire, comme ça, ça a l'air simple, hein, mais il faut avoir l'idée. Il faut avoir juste l'idée de le faire, et c'est pas si simple que ça finalement de sortir des clous et de penser. Et bien pour s'attaquer à la mort, il faut réfléchir à la manière dont ça fonctionnait. On avait le pourquoi, on s'est dit c'est arrivé une fois pour toutes, on a trouvé de très très bonnes raisons, mais les chercheurs ont mis très longtemps à se dire et comment ça a lieu. Sachant que maintenant qu'on sait comment ça a lieu, il y a beaucoup d'argent investi dedans, on verra bien des résultats sur le long terme. Et c'est vrai que si c'était une mutation délétère, c'est un énorme avantage, c'est qu'on peut agir contre. Et ça veut dire qu'on peut, dans un futur plus ou moins lointain, de manière plus ou moins démocratique, c'est ça encore un autre problème, mais il y a peut-être un moment où la mort ne sera plus des nôtres, où la mort sera un lointain souvenir. Alors, ça posera plein de questions philosophiques, hein, pour le coup.
Éthique, morale.
Éthique, morale, financière, tout ce que... de limitation, etc., de renouvellement de l'imaginaire, parce que si on vit de manière... On fait plein de choses parce qu'on sait qu'on est mortel, pas de rien. Mais ça veut dire aussi quelque chose, ça veut dire que si on arrive à se défaire de ce mythe, d'un point de vue de l'humain, on ne peut pas de faire un peu en plus. Et il y a plein d'autres choses, je vous ai parlé de ça, mais par exemple le récit biblique que tout le monde connaît avec le serpent, Adam, Ève, la pomme, le serpent, que j'imagine ne pas avoir besoin de répéter. Quand on regarde ce récit, alors c'est un peu complexe, parce que techniquement la mort n'est pas censée arriver à ce moment-là, et la mort, quand on lit l'Ancien Testament, arrive après coup. Mais il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament, c'est un ensemble de récits qui ont été amalgamés. Il y a plein de petites incohérences, hein. Par exemple, l'homme écrit deux fois. Mais c'est vrai, quand on le lit, il y a des gens qui adhèrent, mais il ne faut pas oublier que c'est, d'un point de vue culturel, c'est des récits qui étaient racontés, qui ont été fusionnés ensemble. Donc, ce qu'on appelle le péché originel, mais là encore, parce qu'en réalité, c'est une définition qui arrive avec les pères de l'Église au Moyen-Âge. Donc, le fait de consommer le fruit, c'est quelque chose, et même techniquement, c'est pas un fruit, parce que quand on regarde le texte en hébreu, ce n'est pas la consommation du fruit, c'est la consommation de l'arbre. Et l'idée du fruit vient de la traduction en latin où le mâle se dit malum et la pomme se dit malum aussi. Donc après, et même là, les gens n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce que dans certaines régions c'est une figue, dans d'autres une date, dans d'autres une pomme. Donc quoi qu'il en soit, pour revenir sur ce récit qui nous a profondément influencé, qu'on le veuille ou non, ça nous a profondément influencé. Et quand on regarde le récit de base, voilà ce qu'on a. On a un homme, une femme. On a cette idée de consommation de l'arbre, on a la présence du serpent qui induit en erreur Ève, qui elle-même induit en erreur Adam, on a Dieu qui arrive, qui appelle Adam, Ève, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus, donc ils se cachent, Dieu rappelle Adam, rappelle Ève, ils arrivent, piteux, ils sont punis. Ce récit renvoie à un autre récit dont on peut montrer que les origines sont beaucoup plus anciennes. C'est un motif mythologique qu'on trouve essentiellement dans l'hémisphère sud et qui est celui. J'avais gardé l'appellation de Yuri Bereskin qui n'est pas forcément. Maintenant, avec le recul, j'aurais peut-être dû le garder, qui est l'appel de Dieu et qui dit que la mort est arrivée parce qu'un être surnaturel a appelé les humains. Et que, comme par hasard, les humains n'ont pas entendu. Ça vous rappelle rien? Dieu qui appelle. Adam et Ève qui ne répondent pas, Dieu qui rappelle, Adam et Ève arrivent. Et ce qui est encore de plus intéressant, c'est que dans ce récit de l'appel divin, de l'appel de Dieu, qu'on retrouve avec la créature surnaturelle qui appelle, généralement, il y en a un qui arrive à sortir son épingle du jeu. Soit qu'il répond à l'appel, soit qu'il induit l'humain en erreur, c'est le serpent. Et, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Australie, on a cette histoire d'un appel divin auquel on ne répond pas, d'un serpent qui est dans le cou pour récupérer l'immortalité. Alors, généralement, il faut être honnête, il y arrive. Hein, l'humain est mortel et lui, il récupère l'immortalité. La Bible met tout le monde sur le même niveau, mais généralement, le serpent arrive à récupérer à garder l'immortalité. Et en fait, en remontant dans le temps, en s'appuyant alors pour le coup sur les sources écrites, puis au bout d'un moment, en s'appuyant sur les statistiques, en s'appuyant sur les données archéologiques, c'est-à-dire la répartition des récits, en s'appuyant sur différents indices, on peut montrer que ce récit biblique trouve racine dans une provenance, profondeur historique absolument phénoménale. Ouais, deux exemples, et après on a parlé de Pygmalion. On est imprégné de mythes en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit dans une société qui est persuadée qu'on a réussi à se défaire des mythes. Et pourtant, qui parmi vous, pour expliquer l'expansion de l'univers, utilise le mythe Big Bang? Parce que dans les faits, le Big Bang, hein, l'idée qu'il y ait eu un petit point qui brusquement explose, qui s'est créé la matière, ça se traduit en réalité sous forme d'équations mathématiques. Et ça n'a rien à voir avec cette image qu'on a tous en tête, avec laquelle on a baigné de ce point hein, qui s'étend. La mythologie imprègne littéralement chacune de nos façons de penser. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont accessibles par les mathématiques et qui ne sont pas accessibles, directement. Lorsqu'il y a eu la Covid, on a revu arriver des idées de punition divine, on a revu réinvesti des chaînes mythologiques qu'on pensait complètement abandonnées, et on a vu arriver par exemple le personnage du sauveur, hein, qui est apparu à plusieurs reprises lorsque la Covid est arrivée, et ce qui était intéressant, c'est que le traitement des choses renvoyait en fait à des mythes qui étaient beaucoup, beaucoup plus anciens. Ça pourrait être l'occasion peut-être d'un futur livre, mais ça demandera une certaine mise de recherche. Une dernière chose, parce que la question c'est du coup, est-ce qu'on peut se débarrasser des mythes? Finalement, si on est imprégné de mythes, est-ce qu'on peut se débarrasser des mythes? La réponse c'est, je suis désolé, c'est non. On peut se débarrasser d'un mythe, hein, on peut se rendre compte que quelque chose est un mythe, mais de toute manière, juste après, il y a un autre mythe qui va prendre la place. La seule différence, il y en a un, vous l'aurez repéré comme mythe, et il y a un autre, vous ne l'aurez pas repéré comme mythe. Alors, à la limite, la chose la plus simple, c'est de garder ses mythes, mais de savoir que c'est des récits. Et de savoir que c'est des mythes qu'on choisit d'y adhérer. Mais, et de jouer avec. Et ça permet éventuellement d'apprivoiser les choses. Après, c'est un choix. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que par hygiène mentale, tous les jours, vous passez une demi-heure à réfléchir à tout ce que vous avez appris pendant la journée, et essayer de réfléchir s'il s'agit de mythes ou pas. C'est possible. C'est faisable. Ça doit être quelque peu épuisant, mais ça peut être un choix.
Mais collectivement, ça joue un rôle, non? Voilà.
Alors,
je peux le déconstruire individuellement, oh, mais quel serait le... Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça seul?
En fait, c'est le principe, si on reprend des termes mythologiques de livres, si on coupe une tête, il y a plusieurs qui apparaissent, le plus simple, c'est de bien prendre conscience qu'il y a certaines choses dans lesquelles on croit qui sont des récits, que c'est des choses qui sont partagées par certaines personnes, qui ne sont pas partagées par d'autres. Avoir comprendre qu'il y a des liens de filiation qui les réunissent, suspendre le principe de vérité, parce que si on pourchasse la vérité, ça veut dire qu'on se bat contre des mythes en permanence, laisser certaines choses dans un coin, disons, on le fait. Et de toute façon, chacun d'entre vous, même la personne la plus rationnelle, a des mythes, ne serait-ce que des mythes personnels, vous savez, ces récits, parce que finalement, vous avez une certaine manière de vous raconter votre vie, et il y a une manière de raconter votre vie qui est la vôtre. Et il y a d'autres personnes qui ont peut-être une vision complètement différente de votre vie. N'empêche que vous y tenez, au point que si quelqu'un remet en question ces histoires fondamentales, vous allez vous fâcher très très fort avec lui. Ce sont des mythes dont on a besoin, c'est des mythes parfois vous ne pouvez pas y toucher, sauf s'ils sont nocifs pour vous. Et juste réaliser que ce sont quand même des mythes, c'est-à-dire qu'on en a besoin, qu'on les admet comme vrais, mais qu'on se contente de les admettre comme vrais. Bon, là aussi, c'est assez vertigineux, parce que la question du mythe vraiment infiltre tout. Et s'enracine en profondeur dans toutes les disciplines. On parlait des sciences, il y a des mythes qui, en science, aujourd'hui encore, sont repérés. La manière dont on perçoit l'évolution, par exemple, en réalité, est remplie de récits qui sont empruntés à d'autres choses. Il y a des mythes en biologie, il y a des mythes, alors moins de mythes géographiques pendant un temps, mais des mythes géographiques. Par exemple, on était persuadés, longtemps les explorateurs étaient persuadés qu'au milieu de l'Australie, il y avait une mer intérieure. Il y a plein d'explorateurs qui y sont allés, personne n'a trouvé, maintenant on a des satellites, on sait que c'est pas vrai. Mais n'empêche, on avait l'idée d'une mer intérieure qui est cachée. C'est aussi des récits, ça renvoie aussi à des récits mythologiques. Et quand les explorateurs rencontraient des aborigènes d'Australie qui leur disaient « oui, il y a une mer dans l'intérieur », ils étaient encore plus sûrs de leur vie. Bon, c'était, du coup, ça conduit à quelques dégâts et un certain nombre de morts.
J'ai encore quelques questions, mais après je vais vous passer la parole. Hein. Est-ce que tu peux me faire un petit coucou quand tu commences à trouver que je suis en train de discuter, moi je n'ai pas regardé l'heure.
Non, vous êtes dans les temps, tu peux poser tes questions.
Super. Moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur le rapport à la mort, avec un truc un tout petit peu plus léger, juste parce que ça parlait de notre territoire. Tu m'autorises à lire un petit bout. Alors, et je reviens aux étoiles aussi, bon, c'est pas spécialement une passion, mais... Dans toutes les Pyrénées, l'assimilation des âmes des morts aux étoiles de la Voie lactée a servi de fondement à la mythologie de l'au-delà. Chaque individu disposerait à sa naissance d'une étoile dans le ciel, une vela encendida, un cierge allumé, disent les Catalans. Et à la mort, cette étoile rejoindrait la Voie lactée pour aller s'éteindre à l'ouest. Il y a peu encore, la Voie lactée était désignée comme Lucami de los Amnos, le chemin des âmes, en Ariège, en Couseran et en Val d'Aran. Bon, c'est une version un peu plus, je sais pas, peut-être douce, ou je sais pas, pour illustrer un petit bout de ma question.
Je suis bien, je serais incapable de parler avec l'accent. Donc, mais...
Je sais pas si c'est juste l'accent, je parle pas
de l'accent. Il faut imaginer que je lis plein de textes, et en fait, je vois les transcriptions, mais c'est quand même beaucoup plus beau quand c'est lu correctement. J'en aurais été incapable. Donc, juste merci pour ça. Oui, c'est pareil. Alors, la Voie lactée qui est liée à la route des morts, on appelle ça, nous, la Voie lactée. Hein, ce qui est connecté, d'ailleurs, je réfléchis à comment prendre dans le bon ordre. Alors, en Europe, on appelle la Voie France, par exemple, la Voie lactée est souvent associée au chemin de Saint-Jacques. On disait qu'elle guidait vers Saint-Jacques. Saint-Jacques, qui est un saint intercesseur entre les vivants et les morts, les guides des morts, au Moyen-Âge. Donc déjà, il y a un premier indice que c'est quelque chose qui est assez ancien. Ensuite, quand on regarde plus en profondeur, l'idée que la Voie lactée est associée, alors c'est quelque chose qui est encore fort. J'ai des racines auvergnates, j'ai une partie de mon cœur qui est en Auvergne, et je l'ai entendu ne serait-ce que l'été dernier. Bon, il n'y a pas la même personne qui m'a dit que les vipères étaient des vaches. Donc c'était... Oui, c'est... Non mais en fait, c'est...
Moi, je l'ai entendu plusieurs fois.
Que les vipères, quoi ? T'étaient
des vaches. Ce qui renvoie là encore, mais ça envoie au serpent cryocéphale, etc., ça renvoie encore à plein d'autres choses. Donc, quoi qu'il en soit, en Europe, depuis très longtemps, il y a cette croyance que la Voie lactée est la route des morts. Ça a été repris par le christianisme a plaqué dessus d'autres éléments, par exemple chez Cicéron, qui dit que c'est la voie où les grands guerriers, que les grands guerriers vont prendre. On retrouve ça dans la mythologie germanique, hein, toujours avec l'idée que c'est les guerriers qui vont le prendre. On le retrouve chez les Grecs. Bref, on le retrouve un peu partout. La Voie lactée, pourquoi ? Parce qu'on était persuadé que les âmes des nouveau-nés allaient boire le lait, et que du coup, c'était un chemin où il y avait toutes les âmes qui se retrouvaient. Hein. Donc là encore, il y a une connexion avec la route des morts. Donc jusqu'à là, on a une profondeur qui nous remonte jusqu'à l'Antiquité grecque, même plus loin, puisque dans l'Égypte antique, il y a, alors c'est plus discuté, mais il y a un rapprochement entre la Voie lactée et le chemin du mort qui aurait été avalé par la déesse Nout, que je ne dis pas de bêtises. Et c'est des choses qui sont évidentes normalement, puis là il y a eu quelques heures de train entre les deux. Donc je suis vraiment, j'espère ne pas vous dire de bêtises, et qui et où l'âme ressortirait par l'autre côté. Donc c'est une première chose. On a cette idée que la Voie lactée est liée dans le monde méditerranéen, en Europe, à la route des morts. Mais cette répartition n'est pas aléatoire. On va la trouver en Afrique, on va la trouver en Europe, essentiellement dans l'Europe du Sud. On va la retrouver dans l'Asie, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Australie. Et au niveau des Amériques, on va la retrouver seulement en Amérique du Sud. Et c'est pas quelque chose de si évident qu'on pourrait le retrouver partout. Alors, une fois encore, il y a plein de variantes. Par exemple, en Australie, ils sont persuadés que c'est un lac. Certains pensent que c'est un fleuve où il y a des âmes des morts. D'autres sont persuadés que, vous savez, toutes les petites micro-étoiles qu'on voit, c'est des feux faits par les morts qui sont en train de circuler. Il y a plein de variantes différentes, mais l'idée est la même. la mort, la Voie lactée comme route des morts. Et pour expliquer ça, en utilisant les statistiques, j'ai montré que c'était un récit qui venait des premières expansions hors d'Afrique. Mais l'explication la plus rationnelle, c'est que ça correspond aux premières sorties, effectivement, géographiquement, des hommes d'Afrique.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs CHEUS, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik.
Il faut imaginer que toute l'Eurasie du Nord est inhabitable. Il fait beaucoup trop froid. On ne peut pas descendre trop bas également. Le niveau de la mer est beaucoup plus bas. Les côtes, telles qu'on les imagine actuellement, ne sont pas ces côtes-là. Elles sont plus basses également. Il y a des passages. Et l'humanité ne pouvait pas, en sortant d'Afrique, monter trop, parce que si elle y monte, voilà, c'était pas un milieu auquel elle était habituée. Donc elle va longer les côtes du Pacifique. Elle va descendre ensuite par l'Asie du Sud-Est, par la zone qu'on appelle le Sahul. Vous voyez toutes les petites îles à l'époque, en fait, ça forme un seul bloc, donc ils en profitent, hein, l'humanité marche. Alors, il y a quand même quelques centaines de kilomètres à franchir pour atteindre l'Australie. Mais pour un être doué de langage, a priori, c'est jouable, c'est pas trop grand. Donc il va y avoir un peu de l'Australie. Et l'humanité va remonter plus tardivement, toujours le long du Pacifique, pour atteindre le détroit de Bering, qui est accessible. En Amérique, c'est un peu compliqué parce que l'Amérique du Nord est très occupée par les glaces. Donc, l'humanité va descendre et elle va arriver en Amérique du Sud. Ce qui correspond à ce qu'on connaît actuellement de l'expansion de la Voie lactée comme route des morts. Ça veut dire que, puisqu'on parle des traditions ici, il y a certaines traditions qui sont plus ou moins vivaces, qui existent encore plus ou moins fortement. Généralement, c'est bien des traditions familiales. Parfois, ça se conserve seulement par des mots. Vous savez, des grands-parents qui disaient « Regarde la route des morts ». Et vous ne connaissez pas l'histoire qui va avec. Mais ces traditions sont des traditions qui remontent également, toujours en termes de probabilité, une probabilité très très forte, aux premières sorties de l'humanité d'Afrique. Après, l'avantage des étoiles, c'est que quand on circule, on les emmène avec nous. Par exemple, les Pléiades, c'est la même chose. Les Pléiades, l'histoire des sept sœurs qui sont poursuivies par Orion, on retrouve des versions très similaires sur la même, pas comme pour la Voie lactée en fait, sur la même aire de distribution. Et pareil, en utilisant des statistiques, on peut montrer qu'on passe d'un point à un autre. C'est encore une autre histoire. C'est un article que j'avais écrit il y a un moment, je reprends un jour, avec une nouvelle base de données. J'en ai fait que deux pour cette constellation. C'est pas, il faut au moins trois ou quatre.
Justement, moi j'ai une petite question base de données où je me suis demandé qu'est-ce qui constituait ce fonds en fait ? Qui avait collecté ces récits ? Et plus avant que ça, moi ça m'a vachement. Comment je pourrais expliquer ça ? Ça m'a vraiment posé question de me dire, sans enlever en fait. La rigueur et ce que ça peut donner. Je me suis juste demandé comment est-ce que ça fabriquerait une autre toile de fond si ça avait été collecté par d'autres gens. Je vais préciser. Par exemple, c'est pas dans ce livre, mais dans l'ancien, la cosmogonie, il y a un moment où on va parler par exemple de différents récits qui ont plutôt trait à du patriarcat, et où là ça m'a pas fait très plaisir parce que ça me faisait remonter possiblement l'idée de patriarcat, si j'ai bien compris, à peut-être une sortie d'Afrique, je la fais rapidement, mais c'est les limites apparentées aux Amazones ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que ça aurait donné si. Qu'est-ce qu'on retracerait comme récit mythologique si les personnes qui étaient allées récolter ces récits avaient peut-être été des femmes, et au moins des hommes. Là, je ne parle pas de qu'est-ce que ça décide. Est-ce que ça déciderait d'autres contenus rapports ? Je pense que non. Mais le contenu serait peut-être super différent. Mais c'est une. Voilà.
Là, c'est toute la question des biais de sélection.
Ouais.
Dans les faits.
Et des traductions peut-être aussi. C'est un peu ça.
C'est ça. Alors, du coup, il y a plein de niveaux différents. On part du plus haut, comme au niveau, puis on descend progressivement si ça vous convient, si ça convient à tous. Déjà, comment est-ce que je travaille ? Je travaille soit avec des bases de données recueillies par d'autres, et les femmes également, et soit je travaille avec mes propres bases de données, parce que c'est des heures et des heures en bibliothèque, avec d'immenses piles sur le côté, je suis un gros lecteur, et j'ai une moyenne, je dois avoir une moyenne d'un livre tous les 2-3 jours, pour la mythologie. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, ça accumule, et si vous regardez dans le livre, il y a une. La dernière fois, mon éditeur m'a dit de m'arrêter, je crois que je me suis arrêté à 900 références, mais le prochain, Je suis parti pour dépasser les 1000, j'espère que l'éditeur ne viendra pas m'arrêter cette fois-ci. Donc quoi qu'il en soit, il y a la première chose qui est comme recherche, qui veut faire et de chercher de manière la plus extensive possible. On peut imaginer qu'il y ait des hommes qui sélectionnent certains récits. J'ai du mal à me dire que tous les hommes ont forcément sélectionné certains récits. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le fait qu'on ne retrouve pas les récits alors qu'en admettant que ce soit essentiellement les hommes qui ont écrit des récits et qu'on ne retrouve pas ces récits, par exemple, en Asie, pourquoi est-ce que les hommes qui cherchent le SAS ne les retrouveraient pas en Asie? C'est la première chose, c'est que les résultats sont à peu près fiables, sachant que ça ne se joue pas sur une donnée, mais sur une masse de données. La deuxième chose, c'est qu'il existe des peuples où il existe plusieurs versions d'un même mythe. Nous, on vit dans une société égalitaire, ce qui est quelque chose d'assez novateur, qui est une expérience qui est magnifique. Alors, il y a du travail encore. Je suis bien d'accord. On est sur la route. Si jamais on ne fait pas marche arrière, hein, et en espérant que... le problème, c'est qu'il suffit d'avoir un coup d'œil sur un certain nombre de démocraties actuelles pour se dire que certaines choses qu'on pensait qu'une fois pour toutes ne le sont pas forcément, et que c'est à la charge de tout le monde, garçon comme homme comme femme, de garder un œil sur le fait qu'on ne fasse pas marche arrière. Donc, quoi qu'il en soit, on vit dans une société égalitaire. Mais la plupart, beaucoup de sociétés, notamment dans l'hémisphère sud, sont des sociétés où la division sexuelle et du travail, et pas seulement, sont importantes. Il y a des sociétés secrètes d'hommes, il y a des sociétés secrètes également de femmes. Souvent, les sociétés secrètes d'hommes sont assez dures, et si jamais il y a une femme qui veut voir ce qui se passe, elle risque un certain nombre de choses désagréables qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il y a des secrets qui sont partagés, ce qui est là aussi, ce qui montre que c'est quelque chose qui est assez ancien. Par exemple, il y a l'usage de rhombes. Vous savez ce que c'est, les rhombes? On le fait tournoyer, ça fait un bruit qui est très très grave, qui est souvent associé au tonnerre. Et les sociétés d'hommes ont un certain nombre de caractéristiques qu'on retrouve dans tout l'hémisphère sud. Par exemple, la ronde, des récits de matriarchie primitive, également en matriarchie primitive, rapidement, c'est des récits des femmes avaient le pouvoir. Elles se sont mal comportées, les hommes se sont révoltés, ils ont repris le pouvoir, et c'est pour ça que les hommes ont le pouvoir maintenant. Donc techniquement, c'est quelque chose c'est une justification du patriarcat. C'est juste dire, les femmes ont eu le pouvoir, elles ont tenté, elles ont raté, donc c'est pour ça que nous, les hommes, on a gardé le pouvoir. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment se méfier de ce mythe, parce qu'il a été réutilisé notamment par les féministes de la seconde vague, comme justificatif pour la lutte, pour l'égalité. Et en réalité, quand on regarde comment ce récit est utilisé, c'est un récit qui est utilisé pour de manière oppressive, en fait. C'est pour justifier l'oppression d'une moitié de l'humanité par l'autre moitié de l'humanité. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, il y a des sociétés, essentiellement des sociétés où des récits sont répandus, des sociétés de femmes. Alors, ce n'est pas les mêmes récits qui sont véhiculés. Les récits sur lesquels je travaille, j'ai pris soin de travailler sur des récits qui ne sont pas clivés. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple, de la chasse cosmique, elle est connue aussi bien par des femmes que par des hommes. Dans la mesure du possible, le problème c'est que ça c'est seulement dans la littérature récente, j'essaie de regarder si les informateurs sont équilibrés, si s'il y a des hommes et s'il y a des femmes. Mais ça c'est assez récent, on prenne conscience de ce type de choses, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un informateur, là on prenait l'information, et parfois on a juste le récit brut, et de plus ou moins bien traduit. Donc, au niveau de mon travail, ça ne changerait pas grand-chose, parce que j'ai travaillé sur des récits qui sont neutres. Ensuite, le problème de la traduction. Effectivement, les récits sont racontés, alors je sais lire plutôt un certain nombre de langues, et on en a besoin. Je suis dans les textes en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais. J'ai des bases en espéranto, ce qui me permet d'acquérir les langues slaves au passage. Et puis j'ai le monde de la mythologie comparée est un monde assez solidaire, ça se renvoie la balle mutuellement. Ce qui fait que j'ai des amis qui peuvent me traduire les textes en arabe, parce qu'il y a plein de textes en arabe qui n'ont pas été traduits. Et ça pose plein de questions aussi de frontières. Donc la base, la racine, c'est un peu de langue différente, mais c'était traduit, ces mêmes langues, d'autres en France Boas, qui était en allemand et en anglais. C'est un anthropologue du 19e, 20e siècle, c'est un des pères fondateurs de l'anthropologie. Alors en France, on aime bien dire que c'est Claude Lévi-Strauss, dans les faits, c'est plutôt Franz Boas, qui lui-même a inspiré Claude Lévi-Strauss. Et cet auteur a écrit en allemand essentiellement et en anglais. Sauf que lui-même a traduit des textes qui étaient dans des langues autochtones. Je ne sais pas lire le Thingit, hein, il y a un moment, il y a des limites, on a des limites à tout. Alors, à ce niveau-là, on perd en granularité. On perd en granularité, par exemple, il y a des mots qui ont un double sens. Pour désigner l'arc-en-ciel, parfois on utilise le même mot pour désigner le serpent et l'arc-en-ciel. Hein, c'est ce qu'on appelle des collexifications. Ça, par les traductions, on les a pas. On peut s'appuyer, ça renvoie encore à autre chose. Mais on peut s'appuyer que sur les notes des anthropologues en se disant, en espérant qu'ils ont bien fait les relevés. Mais là, on perd une granularité. Après, ce que je compare, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est des récits. Et les récits, c'est quoi? C'est une histoire, ça peut être, c'est des actions qui ont lieu, qui se succèdent les unes après les autres. Et ça, quel que soit le biais de traduction, si le héros passe d'abord là, fait telle épreuve, il passe là et fait telle épreuve, je les ai, ces éléments. C'est-à-dire que lorsqu'on passe au niveau du sens, on garde les éléments. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'autant on a des mythes qui ont été très très bien documentés pour les Amériques, autant pour l'Afrique, parfois on a des mythes qui ont été notés sur un bout de papier sans doute au moment où ils ont été recueillis, ça tient en trois lignes. Et autant lorsqu'on fait les cartes de répartition, c'est utile, autant quand on fait une analyse, un mythe de trois lignes, ça ne sert pas à grand chose en fait. Parce qu'il y a trop de risques que ces trois lignes, on les retrouve par hasard en trois autres lignes à proximité. Donc il y a là-dessus, il y a quand même un biais au niveau de l'analyse, on regarde les récits les mieux documentés, les plus longs. Voilà, je fais un peu la balle rebondissante, j'espère que je... Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Je suis bavard. Comme je vous ai dit, je suis enseignant, donc par définition, je suis bavard.
J'ai une petite question. Elon Musk, il s'est échappé du mythe de la mort, ou qu'est-ce qu'il a fait?
Le transhumanisme, ça rejoint... Alors, c'est intéressant parce que Elon Musk, à cette idée d'un paradis, une sorte de paradis originel auquel on pourrait retourner par la technologie. Et c'est sous-jacent à tous ces propos. Bah, on connaît bien Elon Musk, il n'est pas le seul. C'est quelque chose à partir du moment où on a beaucoup d'argent. Il y a ceux qui sont des fonds, qui sont philanthropes et qui aident aux campagnes de vaccination, par exemple. Et puis il y a ceux qui utilisent l'argent pour l'argent. Et qui, du coup, se disent l'argent peut nous sauver de tout, y compris sur l'argent. Donc toujours un peu sur les très intelligents. Hein, quand on a beaucoup d'argent, on a toujours l'impression que c'est parce qu'on est brillant qu'on a eu plein d'argent. Et que du coup, il y a cette dernière frontière, c'est encore un autre débat. Et il y a un autre débat, pas tout le monde. Hein. Et il y a un autre débat qui, du coup, est-ce que l'argent peut sauver de la mort par la recherche? Et on rejoint cette idée, la mythe, parce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette idée qu'autrefois, la mort n'aurait pas existé. On aurait vécu dans une forme d'état d'immortalité qui aurait eu un événement, que du coup, un événement qu'on peut inverser avec la technologie, et on pourrait retrouver cette idée, cette immortalité. Après, c'est les mythes qui sont puissants, c'est les mythes qui soulèvent les montagnes, les mythes qui font que l'humanité s'est répandue partout à travers le monde, l'idée que la Terre, sans la démonstration, l'idée qu'elle Terre était ronde, a fait que on a découvert les Amériques, déjà des humains avant, qu'on a redécouvert les Amériques, et les mythes nous poussent à nous dépasser dans certains cas. Et c'est Elon Musk qui s'appuie sur des choses qui sont très profondément enracinées en nous, cette idée qu'il y a eu un paradis originel, qu'on pourrait le retrouver en y mettant de l'énergie, du temps, de l'argent, et qu'on pourrait finalement inverser ce qui a été fait. Et que ce qui a eu lieu une fois pourrait se reproduire dans le sens inverse. Mais c'est vrai, c'est... À partir de la Renaissance, il y a eu un changement en Europe, il y a eu une forme de changement de mentalité, où on a commencé à placer l'homme au centre, et on s'est dit, tiens, l'homme est capable de faire de grandes choses. Et où on est passé de récits qu'on acceptait, c'est des mythes qui expliquaient le monde, c'était comme ça, on a commencé à les remettre en question et à tester les limites. Et cette façon de faire, qui n'est pas forcément propre à notre culture, qui est quelque chose qui peut s'acquérir, que tous les humains finalement peuvent avoir, a changé beaucoup de choses, et aujourd'hui, avec des personnes comme Elon Musk, on voit la résurrection d'anciens mythes, mais inversée. Où on se dit finalement ce qui nous a été donné, on n'est pas obligé de l'accepter, on peut décider d'en changer. Après vous dire est-ce que ce sera fertile ou pas, l'avenir nous répondra. En tout cas, ça a fait rêver.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. On ne peut pas toujours y aller. Et puis même quand on y va, des fois, on n'a pas le temps de tout comprendre. Heureusement, Radio qui pique est là pour tout enregistrer et vous permettre d'y revenir. sociologie, anthropologie, histoire, géographie, psychologie, philosophie, politologie, archéologie, économie, sciences du langage et de la communication, écologie. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs, ça vaut le coup de s'y intéresser. Puis